poids et turbulence.
Bienvenue à l'émission Foi et Turbulence, animée cette semaine par l'équipe de l'Institut pastoral des Dominicains. Ici Sébastien Daune, et avec moi j'ai Anne Doran, qui est professeure aussi à l'Institut pastoral. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Sébastien.
Aujourd'hui, Anne Doran va nous présenter Jeanne d'Arc, une figure mystique, aussi très politisée, qui a été reprise à maintes fois dans l'art de toutes sortes de façons. On va essayer de mieux comprendre, connaître son histoire, puisqu'il va y avoir un cours qui va être donné à son sujet. Pour mettre la table, qu'est-ce qui vous a amené à l'Institut pastoral? Pourquoi vous vous intéressez aux figures comme Jeanne d'Arc?
Attendez, vous me demandez deux choses.
Oui.
Qu'est-ce qui m'a amené à l'Institut pastoral?
Commençons avec ça.
Oui, c'est que j'ai une formation en patristique, essentiellement.
Les Pères de l'Église.
Les Pères de l'Église, mm-hmm. Oui. Et j'ai une formation en spiritualité aussi, donc c'est pour ça que je m'occupe du versant spiritualité à l'Institut pastoral. Mm-hmm. Et j'ai étudié les pèlerinages, j'ai étudié, bon, un tas de choses qui concernent en principe la spiritualité. Et Jeanne d'Arc, j'ai étudié à l'Institut d'études médiévales. Mm-hmm. Et quand j'étais là-bas, à un moment donné, j'ai eu en main les documents des procès de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire de son procès de condamnation, mm-hmm. et de son procès de réhabilitation, où elle parle et où des témoins qui l'ont connue parlent d'elle, et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant de voir cette figure d'une jeune femme, bon, qui n'avait pas une instruction extraordinaire, qui avait l'instruction d'une fille dans une famille à l'époque, et qui était capable de répondre à des juges qui avaient une instruction évidemment infiniment plus poussée qu'elle, qui étaient des universitaires, qui étaient retors, mm-hmm. qui essayaient de la faire condamner, et de voir la droiture de ses réponses, je veux dire, c'est saisissant. On peut pas ne pas être subjugué par la force de ce personnage-là, de ses réponses, de la droiture de ses réponses. Ça nous ouvre à une autre dimension, ça c'est très clair.
On va espérer que cette figure va aussi nous ouvrir à l'expérience que vous avez faite de ces textes. Vous allez nous le transmettre ça, mais on va essayer de voir comment cette figure de Jeanne d'Arc peut encore interpeller, autant dans le cours que vous allez offrir qu'aujourd'hui à l'émission. Donc, Jeanne d'Arc, avant d'arriver à son procès et à ses fameux textes,
oui.
Parce que ça, c'est plus vers la fin de sa vie, elle a commencé par naître, avoir une enfance. Est-ce que c'était une enfance normale? À quelle époque, c'est à quelle époque, ça?
Jeanne d'Arc, on ne sait pas exactement en quelle année elle est née. On sait qu'elle va mourir en 1431, donc relativement début du 15e siècle.
Mm-hmm.
Mais peut-être que pour comprendre Jeanne d'Arc, avant de parler de sa naissance et tout, il faudrait parler un petit peu du contexte.
Oui, parce qu'on est dans quel contexte, là, au 15e siècle? On est en France.
On est au moment de la guerre de ce qu'on a appelé la guerre de 100 ans.
Mm-hmm.
Ça veut dire que depuis plus ou moins 100 ans, la France est pillée régulièrement. Il y a eu des épidémies. La France est pillée par des Anglais qui sont sur le territoire français, voyez-vous. Toute la partie du territoire de France, tout le nord du territoire de France est aux mains des Anglais, jusqu'à la Loire. Et c'est d'ailleurs justement pour ça que Jeanne va intervenir à Orléans, c'est qu'au fond, ce qui permet de communiquer avec le sud de la Loire, où sont les Français,
mm-hmm.
C'est le pont qui relie Orléans, qui est française, qui est d'allégeance française, au sud, et donc c'est ça que les Anglais cherchent à prendre.
Donc on est dans une époque de guerre entre la France, l'Angleterre
pour la possession même de la France.
Exact, parce que les frontières étaient beaucoup plus floues qu'aujourd'hui, ça bougeait selon les batailles, les victoires avec le temps, à cette époque-là.
Oui, ça bougeait, et l'Angleterre, c'est parce qu'il y a beaucoup de liens,
oui.
entre la France et l'Angleterre. Alors, le duc de Bourgogne, qui mm-hmm. a aussi une grande partie des territoires, donc la Bourgogne, mais aussi toute la France de l'Est et la Belgique, a des prétentions. Je dirais, il voudrait s'allier au roi d'Angleterre. Il est, en fait, allié avec le roi d'Angleterre. Donc, voyez-vous, c'est une France divisée là, à laquelle on fait face.
Donc, il y a trois acteurs majeurs, l'Angleterre au nord, la France au sud et les Bourguignons.
Et les Bourguignons qui sont, au départ, du côté de l'Angleterre.
OK.
Okay?
Et Jeanne, elle va naître dans quel endroit,
elle
dans
est
tout
née à Vaucouleurs, qui est en Lorraine, qui est dans l'est de la France. Et Vaucouleurs est paradoxalement en territoire anglais, mais est resté d'allégeance française.
Mm-hmm.
Alors, voyez-vous, donc, elle est très sensible au fait qu'ils ont des attaques anglaises de temps en temps. Ils doivent s'en aller dans des lieux fortifiés, dont Vaucouleurs, par exemple, d'où elle va partir pour Orléans. Donc, Jeanne a vécu le contexte des batailles constantes entre la France et l'Angleterre. Oui, elle est plongée dans ce contexte-là.
Et qu'est-ce qu'on sait, justement, de son enfance, outre ce contexte plus général de la guerre? Elle, est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'il y a des témoins qui nous en ont parlé?
Oui, écoutez, j'aurais envie de vous dire que le meilleur moyen de connaître Jeanne, c'est d'avoir ce qu'elle nous a dit dans ses procès. Parce que là, on l'entend parler et on sent toute sa personnalité qui est très décidée, qui est très fougueuse. Écoutez, c'est une jeune femme. Hein? Elle a entre 18 et 20 ans. On ne sait pas exactement.
Elle va décéder vers 18-20 ans.
Oui, peut-être vers 20 ans. Là, oui. Mais je veux dire, quand elle vient, elle n'est vraiment pas vieille. Il y en a qui disent 16 ans. Bon. Alors, voyez-vous, et elle a eu une enfance qui semble, d'après ce qu'elle en dit et d'après ce que les témoins autour en disent, très normal. Je dirais, voir avec les autres, ils nous parlent d'aller au printemps près d'un arbre qui est centenaire, ils font un pique-nique. Je veux dire, bon, elle va à l'Ermitage, elle aime aller à l'Ermitage Notre-Dame de Bermond le samedi pour mettre des fleurs. Mais, je veux dire, c'est une enfance normale. Bon, il y en a un qui va nous dire qu'ils l'ont taquinée beaucoup quand elle est jeune parce qu'elle était pieuse, mais
donc,
je veux dire...
Il y avait quand même un aspect religieux.
Il y avait un aspect religieux, c'est très clair, mais on n'a pas l'impression de quelqu'un qui est à part des autres. On a l'impression de quelqu'un qui fait la vie normale d'une jeune femme. Elle est sensible à la pauvreté. Quand il y a des pauvres, il y a même des fois qu'elle essaie de les héberger chez elle, de leur donner son lit puis de coucher dans l'âtre du foyer. Mais on n'a pas l'impression de plus que ça. Elle a même son histoire d'amour. Écoutez, il y a même... Oui.
Elle qui on dit que c'est la pucelle.
Elle est pucelle, oui. D'ailleurs, c'est prouvé parce qu'ils l'ont fait examiner pour être sûr qu'elle l'était.
Quelle horreur.
Mais oui, mais c'était comme ça. Et, mais non, il y a un jeune homme qui va la traduire devant le tribunal parce qu'il prétend qu'elle lui a été engagée.
Mm-hmm.
Et finalement, il va être débouté par le tribunal. Là, elle ne l'a pas fait, mais voyez-vous, il y avait quelqu'un qui était attaché à elle. Donc, elle a une vie relativement normale par rapport aux autres.
Mais il y a quand même quelque chose qui va la distinguer,
Il y a quand même quelque chose, oui. Voyez-vous, elle nous dit, quand j'ai eu l'âge de 13 ans, et là, c'est elle qui le dit, là, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner.
Okay.
Et la première fois, j'ai eu grand peur. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Je n'avais pas jeûné la veille. Je pense qu'elle nous dit ça pour nous dire que c'est pas parce qu'elle avait des hallucinations parce qu'elle n'avait pas assez mangé. Hein?
Donc, elle entend la voix de Dieu.
Elle a une voix. Mm-hmm. J'ai eu une voix de Dieu.
Okay.
Une voix lui venant de Dieu, probablement. Mm-hmm. J'ai entendu la voix du côté droit vers l'église et rarement je l'entends sans clarté. Donc, il y a aussi de la clarté. Cette clarté vient du même côté où la voix est « oui ». Il y a communément une grande clarté. Quand je suis venue en France, ça, c'est quand elle est allée vers le roi, parce que là, étant Lorraine, elle n'est pas comme telle en France. Souvent, j'entendais cette voix. La voix m'était envoyée de par Dieu, et après que j'ai entendu trois fois cette voix, j'ai connu que c'était la voix d'un ange. Cette voix m'a toujours bien gardée, et je l'ai toujours bien comprise. Donc, ces voix... Ça va être les voix de Catherine d'Alexandrie. Elle va dire Sainte-Catherine et, mm-hmm. et Sainte-Marguerite. Mais bon, la Catherine en question, c'est Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, morte au début du 4e siècle, née toute fin 3e. Et Marguerite d'Antioche, une autre vierge et martyre qui était censée être sortie du ventre d'un dragon à un moment donné mm-hmm. avec son épée. Enfin, des histoires là, pleines de...
Oui, de qui date du 3e, 4e pleine siècle.
Pleines de rebondissements. Et alors, il y a aussi Saint-Michel-Archange qui s'adresse à elle. Elle vous dit dans son témoignage mm-hmm. tout à l'heure, c'était la voix d'un ange. Donc, c'est Saint-Michel-Archange qui est considéré à ce moment-là comme l'ange gardien de la France. Donc, on voit le contexte. C'est la France qu'il s'agit de défendre, qui doit être prise mm-hmm. par les Anglais. Il s'agit de la défendre et alors appelle à l'ange gardien de la France qui est Saint-Michel-Archange. Alors, au départ, elle va chez son oncle, mm-hmm. qui habite plus loin que Domrémy, et elle va lui demander de l'amener à Vaucouleurs, parce que Vaucouleurs est comme est un centre où les gens sont demeurés fidèles au roi de France. Et à Vaucouleurs, il y a Robert de Baudricourt, qui est le capitaine en charge, et qui va, lui, être capable de lui donner ce qu'il faut pour s'en aller, le mandat, si vous voulez, pour aller vers le roi.
Là, elle veut aller vers le roi à cause de ses voix?
À cause de ses voix, oui, à cause de ses voix.
Qui lui donne une mission particulière.
Qui lui donne une mission particulière. Voyez-vous, je peux vous donner le témoignage de oui, Bertrand de Poulengy, qui est écuyer du roi de France, qui va l'accompagner jusque vers le roi. Il va dire « Jeanne la Pucelle est venue à Vaucouleurs à l'époque de l'ascension de notre Seigneur, à ce qu'il me semble. Et là, je l'ai vu parler à ce Robert de Baudricourt, donc mm-hmm. le capitaine, qui était alors capitaine de la ville. Elle lui disait qu'elle était venue vers lui, Robert, de la part de son Seigneur pour mander le dauphin qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse guerre à ses ennemis, car le Seigneur lui donnerait secours avant la mi-carême. » Jeanne disait que le royaume n'appartenait pas au dauphin, mais à son seigneur, et le seigneur voulait que le dauphin soit fait roi et qu'il lui remette son royaume en commande. Qu'il lui confie son royaume, c'est ça que ça veut dire, disant que malgré les ennemis du dauphin, il serait fait roi et qu'elle-même le conduirait pour le faire sacré.
Est-ce que vous pouvez nous dire ça dans des mots d'aujourd'hui? Parce que là, avec les dauphins et tout ça, je pense qu'on on se perd un peu, là.
Oui, alors...
Quelle est la teneur de cette mission-là?
Oui, le dauphin, c'est celui qui est héritier du roi de France et à qui il y a un traité juste un peu auparavant qui a fait qu'on lui enlevait, en fait, son royaume et qu'on le donnait au roi d'Angleterre, mm-hmm. qui est Charles V. Alors, le dauphin en question, il s'imagine que il n'est pas sûr, en tout cas, du fait que le royaume de France lui appartienne. Alors, Jeanne va venir pour lui dire, oui, c'est toi. Dieu te confirme dans le fait que c'est toi qui dois être roi de France. Et moi, je vais reprendre Orléans pour te montrer que Dieu est avec toi. Et d'Orléans, tu vas partir et tu vas aller te faire sacrer à Reims. Parce que, justement, à ce moment-là, un roi qui est sacré, c'est un roi qui est comme tel reconnu par Dieu comme ayant le pouvoir. Alors, c'est extrêmement important pour le roi d'être sacré. Sinon, il n'est pas légitime, si vous voulez. Il n'est pas élu. On dirait maintenant, c'est un roi qui n'est pas élu. Oui.
On va écouter un peu de musique de cette époque et on va revenir pour voir si Jeanne va réussir à rejoindre le roi et éventuellement le faire sacré. Mm-hmm. À l'antenne de Radio-VM, vous écoutez « Foi et turbulence ». Cette semaine, l'émission est animée par l'Institut pastoral des Dominicains. Mon nom est Sébastien Daune et je suis en compagnie d'Anne Doran. Et depuis tout à l'heure, on parle de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, une femme en dehors des normes. Et bon, on a parlé de son enfance, du contexte de guerre qui se passe. Et on a terminé avec cette mission qu'elle avait reçue par ses voix, d'aller vers le roi, vers le dauphin, celui qui va finir par devenir roi, pour qu'il soit sacré à Reims. Mais ça implique tout un cheminement, beaucoup de déplacements. Alors, quels sont ces déplacements à partir de son village local pour finalement se rendre au roi?
Bien, elle va d'abord partir de Vaucouleurs. Mm-hmm. Donc, finalement, Robert de Baudricourt va... Il la repousse deux fois, puis la troisième fois, il finit par céder devant son insistance. Et il va lui donner des gens en escorte. Ils vont partir avec deux écuyers du roi et quatre autres pour les aider.
Parce qu'on rappelle qu'ils sont en territoire ennemi.
Ils vont devoir traverser pour aller rejoindre le roi un territoire essentiellement ennemi. Alors, déjà qu'elle ait réussi à se rendre auprès du roi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand elle va venir pour être reçue par le roi est très hésitant. Hein? Mmh. Le dauphin, c'est-à-dire, c'est pas le roi, c'est le dauphin. Le dauphin est un tempérament très hésitant. Tout le long, d'ailleurs, il va être hésitant. Et il est pas sûr de la recevoir. Et Robert de Baudricourt, qui a envoyé Jeanne, lui envoie une lettre en disant « J'ai envoyé une femme. » Et déjà qu'elle soit arrivée jusque-là, en passant par le territoire ennemi, c'est déjà miraculeux. Mmh. Alors, reçois-la. Et alors, il va consentir à recevoir Jeanne. Et Jeanne va se présenter à lui en lui disant deux choses de sa mission. Mm-hmm. En lui disant d'abord qu'elle va reprendre Orléans, parce que Orléans est quelque chose d'important, de stratégique. Mm-hmm. Et les Anglais avaient mis le siège devant Orléans. Et en lui disant qu'elle va le conduire à Reims pour le faire sacrer. Alors, j'ai les textes de ce que Jeanne dit au roi. Alors, gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Alors, elle le confirme, en fait, dans son rôle de futur roi. Chose qu'il ne savait pas, hein, parce que on l'avait d'abord par un traité dépouillé de ses territoires, mm-hmm. et sa mère même est pour le roi d'Angleterre. Mm-hmm. Alors, ce qui veut dire qu'il y a de quoi hésiter aussi, là. C'est pas évident pour lui. Alors, Jeanne arrive, puis elle lui dit « Je viens t'aider et je viens au nom du roi des cieux et ce territoire-là doit être ton royaume et tu dois aller te faire sacrer. »
C'est une question qu'on pourrait avoir. C'est aujourd'hui, Dieu qui soit d'un côté d'un roi en particulier dans une guerre, ça peut poser question. À cette époque-là, ça allait de soi que le roi était mis en place par Dieu. C'était une autre façon de voir, je suppose.
C'est-à-dire que ça allait de soi que le roi était mis en place par Dieu, comme actuellement on prend les résultats d'une élection comme une chose de fait, si vous voulez. Mmh. Ce que Jeanne vient dire au roi, c'est « Écoutez, n'oubliez pas qu'on est dans un contexte où l'Angleterre veut avoir ce qu'ils appellent la double couronne, c'est-à-dire la couronne de l'Angleterre et la couronne de France. Mmh. Ce que Jeanne dit, c'est les Anglais en Angleterre et les Français en France. Mmh. Alors, on peut le prendre comme on veut, mais on peut penser qu'il y a quand même une revendication là qui a quand même droit de parole, si et vous voulez.
Comment est-ce que le roi va prendre cette annonce de Jeanne?
Bien, comme je vous dis, le roi, évidemment, il est content, je pense, d'être conforté dans ses possessions, dans son mmh. territoire. Mais en même temps, comme je vous dis, tout le long, il va être extrêmement hésitant. C'est un tempérament hésitant. Et il y a des courtisans qui sont plutôt pro-anglais tout en étant du côté du roi. Alors, ils vont jouer constamment parce qu'oubliez pas qu'il y a le duc de Bourgogne qui est dans cette histoire-là et que le duc de Bourgogne est quand même en plein territoire français. Alors, c'est pour ça que c'est une affaire assez complexe, si vous voulez.
Mais elle va finir par réussir à dire au roi de lever une armée puis d'aller vers Orléans.
Elle va réussir, oui. Elle va réussir à lui faire avaler ça. C'est-à-dire qu'au début, il l'envoie se faire examiner à Poitiers par des gens d'église pour voir un peu ce qu'il y en est.
La validité de ses voix.
Est-ce qu'elle est une illuminée? Est-ce que tout ça? Et finalement, les gens d'église concluent que... il y a en elle rien de contraire à la foi catholique et que, vu la nécessité, il faut vous rappeler le contexte c'est que ça va au plus mal pour la France. Mm-hmm. Hein, le pont qui relie Orléans, qui est au nord de la Loire, et qui le relie au sud de la Loire, qui est le restant du territoire français, le pont est pris par les Anglais et la ville d'Orléans elle-même est assiégée et sur le point de capituler. On a envoyé des gens au duc de Bourgogne pour négocier avec lui. Alors voyez-vous, ça peut difficilement aller plus mal, donc on se dit c'est pas grave, on peut prendre des chances. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on finit par faire confiance à Jeanne, d'autant que Jeanne aurait révélé au roi certaines choses que seul Dieu pouvait savoir d'après le roi, et donc ça le conforte dans son sentiment de faire confiance à Jeanne. Une confiance assez relative, quand
non,
même.
Non seulement il va faire confiance par rapport au message, mais elle-même, il va lui faire confiance de faire partie de cette armée-là.
Oui, mais c'est ça, mais ça fait partie du message, ça.
Exact.
Que ce soit elle qui vienne l'aider.
Ce qui est quand même particulier, une femme dans un monde militaire à cette époque-là.
Oui, c'est totalement singulier. Ça, c'est absolument singulier, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, Jeanne va finir par arriver à Orléans et elle va envoyer un message, une sommation, comme on le fait à l'époque, pour dire aux Anglais de quitter Orléans, sinon, elle va leur faire la guerre. Alors, puis le ton est très clair. Hein? S'ils ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre. Je suis envoyée ici de par Dieu, le roi du ciel, corps, pour vous bouter hors de France. Alors, c'est pour vous faire sortir de France. Elle sait ce qu'elle veut. Si les Anglais cèdent devant elle, elle va leur pardonner. Et sinon, elle va se battre avec eux. Donc, c'est très, très clair comme avertissement.
Et
elle le fait à toutes les batailles. Ouais. Jamais elle ne se bat sans donner à l'adversaire la chance de s'en aller.
Et bien entendu, ils ne s'en iront pas.
Ben non,
ce cas-là.
Évidemment, ils vont rire d'elle. Ça, c'est très, très clair. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Et alors, on décide alors, bon, elle va être armée, on va lui donner aussi son étendard. C'est très important, son étendard, c'est son signe de ralliement. Ça représente la terre avec deux anges. C'est écrit Jésus et Marie dessus. Mm-hmm. Donc, voyez-vous, c'est comme le signe de sa mission, son étendard. Et donc, elle arrive à Orléans que les Français essaient de ravitailler, parce que c'est ça, au fond, qui fait céder une ville. Mm-hmm. C'est quand tout le monde meurt de faim, bien, on finit par se rendre. Hein?
Donc, l'important, c'était d'amener des vivres.
L'important, c'est d'amener des vivres pour tenir, être capable de tenir plus longtemps dans le siège. Et alors, évidemment, comme le principal pont est pris par les Anglais, bien, on va aller par un autre côté de la ville pour essayer de ravitailler par des bateaux, si vous voulez. Mais les vents sont contraires, les bateaux peuvent pas, parce que c'est des bateaux à voile, évidemment. Les bateaux peuvent pas rentrer en ville. Alors, Jeanne va trouver le bâtard du roi, qui est comme le défenseur de la ville, et va lui demander si c'est lui qui est effectivement le bâtard du roi et qui a décidé qu'ils iraient par ce côté-là de la ville pour l'approvisionner. Alors le bâtard du roi lui dit que oui, c'est effectivement c'est lui qui a pris la décision, aidé par d'autres gens avisés. Et alors Jeanne lui répond, en nom Dieu, le conseil du Seigneur notre Dieu est plus sage et plus sûr que le vôtre. Alors elle lui dit qu'elle lui apporte des secours, que c'est le secours du roi des cieux. Et à ce moment-là, comme par hasard, le vent tourne de bord et les bateaux peuvent s'en aller à Orléans. Alors déjà, là, le bâtard d'Orléans commence à trouver que...
Il y a quelque chose de spécial.
Il y a quelque chose qui se passe là. Bon, que la roue de la fortune est en train de tourner de bord. Alors, le 29 avril 1429, Jeanne rentre dans Orléans et elle doit attendre, le restant de l'armée avec le roi est à Blois. Alors, elle doit attendre qu'ils arrivent et il ne se passe donc rien jusqu'au mercredi 4 mai. Et le mercredi 4 mai, donc, elle va les rencontrer, ils arrivent. Et donc, celui qui est chargé de l'armée se couche et elle vient pour se coucher. Puis tout d'un coup, elle le réveille et elle lui dit, vite, 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 j'ai reçu un message de mes voix qu'il faut se lever puis qu'il faut aller battre les Anglais parce qu'il y a une escarmouche du côté du pont, là. C'est la Bastide de Saint-Loup, mais c'est le côté du pont qui domine la Loire, si vous voulez, qui rend vers le sud de la Loire. Alors,
elle donne le signal à tout le monde de se réveiller.
Ils sont en train de se battre un peu avec les Anglais, et quand ils la voient, ils se rallient à elle et ils prennent la forteresse de Saint-Loup.
Donc, elle a une espèce de rôle de motivateur.
C'est très, très clair qu'elle a un charisme. Les gens de guerre disent, écoutez, c'était une fille ignorante, ou d'autres vont dire une fille jeune, mais pour ce qui était du fait de la guerre, elle se conduisait comme un chef les plus avisés. Mm-hmm. Et c'est clair tout le long. Elle sait comment les disposer, elle sait comment les motiver, et les gens se rallient à elle. Déjà, les hommes d'armes là, qui l'ont accompagnée de vos couleurs auprès du roi. Au début, ils la prennent un peu pour une illuminée. Ils veulent la tester. Et on voit tout de suite, à un moment donné, ils épousent sa cause. Elle a la capacité de faire que les gens se rallient à sa cause. Et c'est ça qui est très fort chez elle.
Et cette bataille autour du pont, ils vont la gagner?
C'est-à-dire que le premier soir, ils vont commencer par prendre une des bastides, OK? Mm-hmm. Une des défenses du pont, en gros. Mm-hmm. Et le lendemain va avoir lieu l'affrontement. Ça va durer toute la journée. Et rendu au soir, parce que c'est ce qu'on fait à ce moment-là, le soir, chaque armée sortir de son bord. Et là, les Français, donc, veulent se retirer parce que c'est pas clair encore qu'ils ont gagné. Et alors, le bâtard d'Orléans va nous dire qu'il la voit se retirer seule et pendant le temps d'un demi-quart d'heure, prier. Et alors là, elle va revenir avec son étendard. Et là, toute l'armée va la suivre et ils vont prendre l'assaut, puis ils rencontreront pas de résistance, parce que autant elle a le tour de motiver les Français, autant elle a le tour de démotiver les Anglais qui, quand ils voient cette espèce d'impulsion qu'elle donne à l'armée, ils démissionnent, carrément. Donc, la Bastide des Augustins est prise. Donc, ça veut dire que ce qui bloquait l'entrée d'Orléans n'y est plus.
Donc, le siège d'Orléans?
Et non, il n'est pas levé encore.
Non.
Mais le lendemain matin, donc le pont est pris, le lendemain matin, les Anglais se mettent en ordre de bataille, donc les Français se mettent en ordre de bataille devant, et ils se regardent pendant une heure de temps, et au bout d'une heure de temps, les Anglais partent.
Au lieu de commencer la bataille.
Au lieu de se battre. Le siège est levé. Comme je vous dis, elle a comme une telle énergie de conviction qu'on a l'impression que c'est ça qui est un élément de la guerre.
Alors, on vient de voir la réussite de Jeanne d'Arc qui vient de lever le siège à Orléans. On va continuer avec la suite de sa vie assez tumultueuse, mais encore une fois, un peu de musique de son époque. Thank you. Ici Sébastien Daune, vous êtes à l'écoute de Foi et Turbulence, qui est animée cette semaine par l'Institut pastoral des Dominicains, avec moi, Anne Doran, qui est professeure à l'Institut pastoral, et on discute ensemble de la figure de Jeanne d'Arc, parce qu'il va y avoir un cours à ce sujet-là. On a parlé de son enfance, du contexte de guerre, de tout ça. Elle est allée rejoindre le roi, et avec elle a permis au roi de regagner la ville d'Orléans. Avant de la musique, on entendait comment les Anglais sont tout simplement partis de la ville parce que ils n'avaient plus l'étanchéité de ce siège-là et ils ont quitté comme ça. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alors, on a annoncé tout à l'heure au début de l'émission qu'il y avait comme une mission d'amener le roi jusqu'à Reims pour son sacre. Comment va se faire la transition entre Orléans et Reims? Parce que là, ça, c'est encore plus loin du côté des Anglais, je suppose.
Oui, Reims, c'est quand même à une certaine distance et il y a beaucoup de villes qu'il faut franchir pour y arriver qui sont aux mains des Anglais, enfin, qui ont fait allégeance au roi d'Angleterre, oui, oui, si vous voulez. Alors, c'est ça. Donc, elle va avoir les villes à traverser. Écoutez, essentiellement, il y en a où il va falloir se battre. Mm-hmm. Il y en a qui vont céder facilement, puis il y en a qui vont céder après des négociations. Maintenant, les textes, ce que ça nous dit d'intéressant, quand elle arrive à Loche, mm-hmm. Bon, le roi tergiverse encore, le roi veut savoir comment son conseil de voix s'adresse à elle, et Jeanne va lui expliquer que quand il n'y a personne qui veut avancer, elle prie Dieu, et une fois que sa prière est faite, elle va entendre une voix qui lui dit « Fille d'Eh ». « Fille d'Eh », ça veut dire « fille de Dieu mm-hmm. ». Alors, elle entend une voix qui lui dit « Fille de Dieu, va, 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 je serai à ton aide, va ». Alors, on voit, et ça revient souvent pendant le procès. « Fille de Dieu, Jeanne la Pucelle, fille de Dieu, va ». Donc, on voit cette impulsion-là. Et au fond, quand elle entend cette voix-là, elle ressent une grande joie, et même quand elle en parle, les témoins qui sont là voient à quel point elle rayonne de joie quand elle parle de ses voix, voyez-vous, mm-hmm. Donc c'est ça, et alors à chaque fois qu'on hésite, et on hésite souvent parce que le roi est hésitant, Jeanne emporte la décision, on consulte Jeanne et Jeanne dit allez-y, Dieu est avec vous, on va l'avoir.
Alors c'est vraiment elle qui
c'est vraiment qui mène... elle qui donne l'impulsion, okay. Ça c'est très très clair.
Et ils vont rencontrer toutes sortes de difficultés.
Oui, mais... des fois plus, des fois moins, mm-hmm. Des fois on bataille, des fois ça cède facilement, des fois ça cède avec des négociations, mais oui. Alors c'est comme ça qu'on va se rendre à Reims. Okay. Voyez-vous, j'ai le témoignage d'un poète de l'époque qui mm-hmm. s'appelle Alain Chartier et qui dit, en écrivant à un prince étranger, « Elle a haussé les esprits vers l'espérance des temps meilleurs. » Et c'est vraiment ça son rôle. Mm-hmm. Alors, l'espérance est revenue et ils ont été capables de reprendre, en fait, le territoire.
Et quelle est l'importance de Reims? Reims, moi, je connais
Reims,
moins...
Reims, c'est la ville du sacre. OK. Okay? Donc...
c'est là où les rois, normalement,
c'est
se faisaient...
C'est là où les rois sont sacrés. Il y a la Sainte Ampoule à Reims, c'est-à-dire l'huile avec laquelle le roi est sacré. Bon, il y a toute une espèce
Donc,
de...
Donc, pour devenir roi,
pour ça, il fallait passer roi, par là. C'est très clair que le roi est confirmé dans sa fonction par le sacre, par le fait qu'il est oint. Mm-hmm. Si vous voulez, comme on a pour la confirmation, par exemple,
oui,
c'est de l'onction avec mm-hmm. une huile. Bon, ben il y a une huile sacrée. Et comme je dirais, comme maintenant, quand une élection, quand la victoire est remportée par un certain pourcentage, ben ça confirme en fait mm-hmm. L'élection. Donc,
alors, ça donne
ça.
Une légitimité à celui qui
ça donne la pleine légitimité.
C'est le roi Charles.
Ça va être Charles VII.
Charles VII.
Oui, parce que Charles VI, son père, était par moments atteint de folie. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui avait fait que le royaume de France aussi, en partie, était si divisé, si vous mm-hmm. voulez. Hein? Et je veux dire, tout le monde essayait de prendre le pouvoir à sa place. Alors, donc, il est sacré à Reims le 14 juillet 1429. Et là, Jeanne est au pied du roi, elle lui embrasse les genoux et elle pleure. Elle lui dit « Gentil roi, or est exécuté, ça veut dire maintenant est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je lève le siège d'Orléans, première mission et que je vous amène en cette cité de Reims recevoir votre Saint-Sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de Dieu doit appartenir. Donc, elle est double, la mission de Jeanne est doublement remplie. Il y a eu la prise d'Orléans et il y a eu le sacre du roi.
À nos oreilles contemporaines, modernes d'aujourd'hui, ça fait quand même assez spécial d'avoir la politique et la religion mêlées ensemble comme ça, là.
C'est très clair. Et Robert Bresson, un cinéaste français, a fait un film sur Jeanne d'Arc, oui, qui s'appelle Le procès de Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Et c'est justement ce qu'il nous montre dans son film, c'est les textes du procès qui sont des textes, comme je vous dis, fantastiques parce qu'on la voit. Et il y a quelqu'un qui lui demandait, est-ce que ça permet d'expliquer Jeanne, un film comme celui-là? Et Bresson va répondre, on ne peut pas expliquer Jeanne. On peut juste essayer, devant la grandeur, on peut juste essayer de se mettre à son niveau. Alors, je dirais que c'est ça. Je n'ai pas d'explication de Jeanne à vous donner. Elle ne s'explique pas. Mm-hmm. On peut juste prendre contact avec les textes et voir ce qu'il y a dedans et être impressionné par ce qu'on voit, c'est clair. Mm-hmm. Mais je ne vous donnerai pas d'explication. Je n'en ai pas et il n'y en a pas. Mm-hmm. Je veux dire, c'est un personnage qui dépasse la compréhension qu'on peut en avoir. Maintenant, on peut le regarder de très près parce que c'est extrêmement intéressant. Pour voir quelqu'un qui a eu le sentiment d'être tellement accompagné de Dieu dans une mission qui était la sienne. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça peut être moderne. Mm-hmm. Je pense qu'on peut penser, nous autres, dans notre histoire québécoise, à Marie de l'Incarnation, par exemple, qui était elle aussi une grande mystique, donc qui avait des expériences de Dieu, comme Jeanne en a. Et qui était une femme d'action. Bon, c'était une cloîtrée, mais déjà que, étant religieuse cloîtrée, Marie de l'Incarnation a pu passer en Nouvelle-France, ça ne se faisait jamais. Quand on était cloîtrée, on restait d'où on partait. Et elle passe en France, elle a une vision, elle se voit avec Madame de la Peltrie, et c'est elle qui va soutenir la colonie naissante. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas de la bataille, mais c'est de l'action.
Oui, oui,
elle est en pleine action.
Ce qu'on voit, c'est que l'histoire, notre histoire, porte toutes sortes de femmes qui ont pris une place importante.
Une place, au niveau... qui étant mystique, c'est oui, ça, oui. Soutenir par leur lien à Dieu, si vous voulez. Et ça, c'est comme Jeanne d'Arc.
Si on revient à Jeanne, après le sacre, qu'est-ce qui va se passer?
Bon, après le sacre...
C'était le haut...
Les deux éléments de sa mission. Okay. C'était prendre Orléans et faire sacrer le roi.
Oui.
Donc, en gros, sa mission est accomplie. Maintenant, ce qu'on veut faire, l'armée veut aller reprendre Paris. Mm-hmm. Parce que Paris est aux mains des Anglais à ce moment-là. Alors, ils vont tranquillement retraverser toutes sortes de villes, avoir toutes sortes de batailles pour essayer de reprendre Paris. Et ils vont aller jusqu'à Saint-Ouen, qui est dans la banlieue nord de Paris. Mais là, le roi va tergiverser encore. Son problème à Jeanne, après Reims, c'est que le roi est conseillé par des conseillers qui flattent son hésitation naturelle, si vous voulez. Alors, finalement, le roi va faire qu'ils doivent se retirer de Paris et ils vont aller se battre à Compiègne parce qu'il y a un siège anglais devant Compiègne. Et là, Jeanne va être prise à Compiègne.
Donc, elle
ça va beaucoup moins bien.
Prise par les Anglais?
Prise par les Anglais. C'est-à-dire, elle est prise par des Français, par des Bourguignons qui sont pro-anglais, qui vont la vendre. Au roi d'Angleterre. Mm-hmm. Okay, c'est carrément parce que, bon, les prisonniers à ce moment-là, il y a des rançons et tout ça.
Est-ce que c'était un bon prix ou...
Ah oui, c'était un très haut prix parce que les Anglais la voulaient à tout prix.
Ils savaient que c'était elle qui était derrière le succès de l'armée de France.
C'est très, très clair. Oui, oui, ils lui en veulent à mort. Alors, c'est clair, ils veulent la faire condamner par un tribunal ecclésiastique, par l'Inquisition, mais si jamais elle n'est pas condamnée par l'Inquisition, ils la reprennent et ils la font condamner de toute façon. Alors,
les perspectives ne sont pas très...
sont pas très bonnes et son procès va être un procès politique sous déguisement religieux. Ça, c'est très clair.
On va revenir justement sur ce procès-là parce que vous nous avez parlé des textes et tout ça. D'abord, encore un peu de musique, puis on va pouvoir voir qu'est-ce qui arrive finalement en fin de vie à Jeanne d'Arc. Vous êtes à l'écoute de Foi et Turbulence. Ici Sébastien Daune. Nous sommes l'équipe d'animation de l'Institut pastoral des Dominicains. Je suis avec Anne Doran. Et vous croyez peut-être qu'on est en 2016, mais non. Nous sommes au 15e siècle. On a suivi Jeanne d'Arc avec les voix qu'elle entendait qui lui ont permis à faire sacrer le roi, de lever le siège à Orléans. Et malheureusement, bon, elle se fait prendre. On a raconté comment elle s'est faite arrêter et même vendue. Et là, elle est aux mains des Anglais. Et les Anglais vont on a dit, lui faire un procès. Quel est ce procès-là? C'est un procès religieux, au
c'est
départ.
C'est un procès d'inquisition, oui. Il y a notamment Cochon, mm-hmm. Qui a été à l'Université de Paris, qui est un très haut dignitaire, mais qui est vendu à la cause anglaise. Ça, c'est très, très clair.
Donc, le juge en chef est du côté des Anglais.
Le juge en chef, oui, c'est très clair. Sinon, il n'aurait pas été juge pour ça. Et il y a donc un inquisiteur aussi, quelqu'un qui est chargé de vérifier la foi. Mm-hmm. Bon. Et alors, ils vont l'interroger. Ils vont l'interroger de façon, je dirais, déloyale, en ce sens qu'ils mettent des questions, ils interrompent, ils reviennent. Viennent pour la faire se contredire, c'est très clair. Et ce qui nous frappe dans les textes des procès, c'est la droiture de Jeanne face à ça. Entre autres, il y a un texte que je trouve extraordinaire, il y a Jean Beaupère qui est un des inquisiteurs, justement, mm-hmm. qui lui demande « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu? » Évidemment, c'est un procès de foi, donc, qu'on lui fait. Jeanne répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Je serais la plus dolente, la plus triste de tout le monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. Et si j'étais en péché, je crois que la voix ne viendrait pas à moi, et je voudrais que chacun l'entende aussi bien que moi. Mais cette réponse-là, si je n'y suis, Dieu m'y mette, si j'y suis, qu'il m'y garde, je trouve ça extraordinaire. C'est
donc
une très jeune femme. Mm-hmm. Puis elle a je veux dire, ils sont tellement stupéfaits là, quand elle leur répond ça, qu'ils arrêtent l'interrogatoire, parce que, je veux dire, c'est... Mm-hmm.
Ça s'en va pas dans la direction qu'ils veulent.
Je veux dire, c'est elle qui montre sa supériorité en répondant comme ça. C'est pas eux qui ont le haut du pavé. Et c'est comme ça... très, très souvent pendant le procès. Alors, finalement, ce sur quoi ils vont essayer de la voir, c'est sur son costume d'homme, parce qu'elle est habillée en soldat. Ben, elle s'habille en soldat, tout simplement. Pour faire la guerre, c'est quand même plus pratique. Et c'est ses voix, d'après elle, qui lui ont dit de faire ça. Mm-hmm. Et comme elle va le dire, d'ailleurs, au moment du procès, « Cet habit ne charge pas mon âme », c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est contre la foi, et le porter n'est pas contre l'Église. Mm-hmm. Donc, il y a l'habit d'homme qui les fatigue beaucoup, et il y a l'obéissance à l'Église, mais à l'Église de la terre, voyez-vous. Donc, c'est des questions de pouvoir de l'Église. Jeanne prétend se rapporter à Dieu seul. Mm-hmm. Alors, voyez-vous, puis là, on essaye de lui faire dire, oui, mais si l'Église vous dit que vos voix sont pas bonnes, est-ce que vous allez croire que vos voix sont pas bonnes? Alors, voyez-vous, c'est ça le jeu tout le long.
On sépare Dieu et l'Église, puis bon, de quel côté est-ce que tu es, Jeanne?
Et c'est toujours arrivé du côté des mystiques. Il y a toujours eu une lutte, parce que les mystiques prétendent d'avoir un lien à Dieu qui ne passe pas directement par l'intermédiaire de l'Église. Et ça, ça a toujours fatigué l'Église.
Donc, on l'accuse d'être en dehors de cette
Église-là. Oui, elle va être condamnée comme hérétique, c'est clair, là, c'est à la fin du procès. Parce qu'elle répond, elle dit « Oui, je me soumets à l'Église », mais elle répond toujours « Oui, notre sire premier servi ». Et pour oui, elle, notre sire, c'est Dieu. Elle va le dire ailleurs, c'est Dieu premier servi. Et ça, on ne peut pas l'accepter, qu'elle dise pas « Oui, je me soumets entièrement à l'Église ». Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on va lui faire toute une mise en scène quelques jours avant sa mise à mort. On l'amène sur le vieux marché à Rouen et on lui fait la mise en scène d'une condamnation et on va obtenir d'elle qu'elle renie tout ce qu'elle a dit et qu'elle se soumet entièrement à l'Église. Mm-hmm. Alors là, on lui dit, parce que c'est quand même un procès clérical, on lui dit que, bon, si on l'a amenée donc à se soumettre à l'Église, puis à entériner tout ce que l'Église dit. Mais là, elle ne peut plus porter l'habit d'homme. Et ce qui va arriver, on va la remettre en prison. On lui avait dit qu'on la libérerait si elle se soumettait, mais on ne la libère pas, on la remet en prison. Et elle va reporter l'habit d'homme. Alors là, il y a deux versions. On ne sait pas laquelle il faut croire. Est-ce qu'elle a... Il y a une version qui dit qu'elle a remis l'habit d'homme parce que les gardiens lui ont caché. Elle est en prison anglaise. Alors, c'est des gardiens anglais qui sont des hommes. Qu'on lui a caché ses habits de femme, ce qui est possible. Il y a d'autres choses, d'autres témoignages qui nous disent que c'est parce que, évidemment, elle était avec des hommes, alors elle se faisait trop agacer quand elle était habillée en femme. Donc, elle préfère s'habiller en homme, puis elle a la paix, quoi.
Mais c'est devenu comme un symbole de sa non... d'être non conforme à l'Église? De se rhabiller en homme?
C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a voulu le prendre.
Oui.
Pour elle, ça ne l'était pas. C'est très clair. Elle l'a dit dans son procès.
Donc, ça a été le motif.
Ça a été un des motifs, oui.
Et on va décider de l'exécuter à cause de ça.
Donc, on va décider de l'exécuter. Et donc, on va la faire brûler sur la place du marché à Rouen. Elle est déclarée relapse parce qu'elle est retombée dans ses fautes, puisqu'elle s'est habillée en homme encore une fois, hérétique et excommuniée. Donc, elle est excommuniée, sauf que, pour vous montrer à quel point c'est contradictoire, le matin même de l'exécution, elle demande d'être confessée, elle est confessée, et là, elle demande la communion. Alors, on va demander à Cochon si on peut lui donner la communion. Cochon dit oui. On lui donne la communion. Alors, vous voyez à quel point c'est pas logique. Non, c'est pas juste particulier, c'est complètement
illogique. Et on voit très bien,
c'est
un procès qui est mené par ses ennemis, les Anglais. Donc, il y a quelque chose de très politique, bien entendu. Là. Mais ça, l'histoire ne se termine pas là. Parce qu'après ça, il va y avoir un deuxième procès, je pense.
Oui, 25 ans après.
OK.
Ça se met à aller mieux du côté français après ça. Donc, les Bourguignons vont se mettre à négocier une paix qui va finir par devenir une paix durable avec Charles VII, qui est maintenant le roi légitime parce qu'il a été consacré à Reims. Et alors, c'est ça. Donc, ils vont finir par prendre Rouen. Et c'est à Rouen que sont tous les documents du procès, évidemment, puisque le procès a lieu à Rouen. Donc, en 1451, Charles VII, parce que son honneur était touché par le fait que Jeanne d'Arc a été condamnée, parce que c'est elle qui avait délivré Orléans, et c'est elle qui avait mené l'armée vers le sacre, qui l'avait mené lui aussi avec l'armée vers le sacre. Donc, on a l'impression que c'est un peu pour l'honneur de son nom qu'il fait faire un procès. Mais c'est un procès qui est particulier. Maintenant, en 1456, il va y avoir une demande faite au pape, parce que c'est un procès d'inquisition qui a été fait à Jeanne, pour qu'on refasse un procès d'inquisition, donc un procès officiel de l'Église, pour casser le premier procès qui avait été fait.
Dans le but de la réhabilité.
Alors, c'est ce qu'on appelle le procès de réhabilitation.
Donc, il y a un deuxième procès dont
on a
les textes aussi.
Dont on a les textes. Les enquêtes vont être faites. Donc, il y a plusieurs des témoignages qu'on a qui viennent de ce deuxième procès. Parce que le premier procès avait été comme... À chaque fois qu'il y avait un témoignage qui était pro-Jeanne, bien évidemment, on le faisait disparaître. Alors, ces choses-là vont paraître plus dans le deuxième procès.
Qui est mené par les Français cette fois-ci?
Quelqu'un de l'Inquisition, mais du côté français. Et qui est mené par un légat du pape, parce qu'à ce moment-là, les Turcs sont face à Constantinople et le pape voudrait beaucoup que les rois chrétiens s'entendent entre eux, donc que la paix soit faite entre la France et l'Angleterre. Donc, tout ça peut aider. Alors, c'est ça. Donc, il y a un procès qui est fait et qui finalement va dire que les sentences du premier procès d'inquisition sont cassées, annulées et doivent être lacérées. Alors, en guise de symbole, il y a un des textes qu'on prend puis qu'on lacère pour montrer que le procès est vraiment débouté de part en part, si vous voulez. Et alors, ça a lieu à Rouen le 7 juillet 1456.
Donc, à ce moment-là, Jeanne n'est plus considérée comme une hérétique.
Non. Et... elle n'est plus considérée comme une hérétique. Il y a, depuis que Orléans est prise, il y a une fête à chaque année à Orléans pour remercier Dieu de la prise d'Orléans. Maintenant, c'est long, hein? Ça ne viendra pas avant le 20e siècle pour que Jeanne d'Arc soit déclarée sainte.
Ah, oui.
C'est quand même très long.
Donc... grosso modo, 5 siècles, 500 ans.
Oui, avant de
après
la
sa mort.
Elle va être canonisée seulement le 9 mai 1920. Et en France, on va lui faire une fête qui est une fête nationale seulement le 10 juillet 1920. Donc, voyez-vous, c'est une figure tellement énigmatique, tellement hors norme, que ça a comme pris tout ce temps-là avant qu'elle puisse être reconnue. Alors, c'est ce qu'il en est de Jeanne d'Arc. Mais les textes des deux procès sont vraiment quelque chose à retenir, quelque chose d'incroyablement parlant.
Et je suppose que pour avoir un meilleur accès à ces textes-là, les travailler, les fouiller, ça, vous allez pouvoir... donner ces textes-là aux étudiants qui vont venir suivre le cours avec vous.
C'est clair que moi, je vais travailler avec les textes. Oui, exactement.
Parce qu'on parle de Jeanne, puisqu'il va y avoir un cours qui va être donné à l'Institut de pastoral à Montréal. Ça va avoir lieu les jeudis au mois de mars.
Oui,
si vous avez quelques minutes, pourquoi est-ce qu'on irait s'intéresser à la figure de Jeanne en particulier, puis dans ce cours-là?
Parce que c'est une figure extraordinaire. Je veux dire, c'est une belle figure. Comment dire autrement? C'est une figure inspirante de quelqu'un qui a l'impression, qui a comme pour elle l'évidence d'un engagement politique nécessaire et qui sent que la présence de Dieu dans cet engagement-là qu'elle va avoir. On pense, et je vais faire d'ailleurs au cours un parallèle, par exemple, avec quelqu'un comme Monseigneur Romero, qui a été, comme elle, jusqu'au martyr. Hein, il s'est fait tuer pour sa prise de parti pour les pauvres. Mais on pense à tous ces évêques latino-américains qui ont vraiment eu conscience, au nom de leur foi, de devoir prendre part dans le monde politique pour des gens qui étaient méprisés. Et ça ressemble un peu à la prise de position de Jeanne. Jeanne, elle prend part pour les Français qui sont totalement aplatis, on pourrait dire, par les Anglais qui veulent dominer le royaume de France. Alors, c'est ça.
Bien, merci beaucoup, Anne Doran. Je rappelle aux auditeurs, ceux qui sont intéressés par ce cours-là, donc à aller sur Internet et trouver le site web de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Ici Sébastien Daune, je vous remercie de votre attention. Alors, on peut revenir au 21e siècle après ce court passage au 15e avec Jeanne d'Arc. À la prochaine!